Spoiler alerte. Les épisodes se suivent chronologiquement. On vous conseille de commencer par le début.
On va devoir se serrer la ceinture.
Ça va être génial.
Faut que tu prennes des risques.
C'est des ouf.
On adore.
C'est dur.
Ça me saoule.
Est-ce que c'est la fin du monde d'avoir raté?
Je suis plus sûre de rien du tout.
Allez-y, lancez-vous, sinon vous le regretterez.
Bienvenue dans Commencer, le journal de bord de la création de notre entreprise. Dans l'épisode précédent.
Tout ce qui arrive là, c'est rien. C'est des cartons qu'on va porter. On va se faire chier, mais c'est pas grave, tu vois.
Dans 3 jours, nos 300 tailleurs arrivent et on ne sait toujours pas où on va les réceptionner.
Non, non, mais vraiment, bref, pour conclure, parlez-moi, n'hésite pas.
Pas de problème sans solution. Kim, le précédent locataire, nous appelle. Il nous propose de faire un contrat de sous-location en attendant de signer le bail.
Trop chouette, merci beaucoup.
Merci.
À plus.
Ciao.
Nous voilà donc dans nos bureaux du 10e. Sans électricité, ni chauffage, ni internet.
Ils sont dans un carton.
Dans un carton
qui doit être derrière ta chaise.
On est dans notre premier pop-up store à Beaubourg.
J'ai le plaisir de revenir vers vous afin de vous annoncer que la candidature de 17h10 pour intégrer le programme ADN IFM à Station F à partir du 1er janvier a été retenue. Yeah.
Saison 2, épisode 9. Nouvelle année, nouveau défi.
Ça te stresse de quoi ?
Bah, de me dire que même là en décembre, qui est censée être une période forte, on n'a rien vendu, tu vois. Je suis très très loin de mes projections.
Après nos pop-up stores, je suis partie en vacances assez préoccupée. On a pâti des manifestations et des mouvements sociaux à Paris fin décembre. Un mauvais moment pour les commerçants.
Et du coup, là, j'étais en train de regarder les influenceuses.
Bah, c'est bien, tu réagis.
Ah oui.
De toute façon, c'est le début, c'est difficile. Non, mais c'est vrai. Tes projections, c'était pour les investisseurs et tout, mais...
Ah ouais.
Tu te doutais bien que t'avais pas à vendre les premiers mois.
Ouais, bah j'en avais aucune idée, en vrai. C'était tellement bien parti à la campagne Ulule que...
Ouais, mais la campagne Ulule, les gens, vous connaissez.
Ouais, c'était des gens qui avaient déjà envie d'acheter et qui attendaient. Ouais. Mais non, et puis là, on va voir les bureaux, donc... C'est pour ça qu'ils commencent à me stresser. On va voir les bureaux, moi je vais avoir un poste à Station F aussi, donc ça va me coûter cher.
On ne baisse pas les bras. Notre première année d'entrepreneuriat a été consacrée à monter notre société, trouver des financements, développer la collection, le site internet et créer notre marque, 17h10. Cette deuxième année doit être centrée sur le développement business et la vente. Un sacré programme dont je discute avec Antoine, mon copain, et Rui, un ami.
Mais pour moi, ta première contrainte, c'est l'autoconversion.
Mais le SEO, c'est obligé.
Ouais, c'est clair.
Non, parce que le SEO, ça va t'amener 1000 personnes. Après ça, c'est comment ces 1000 personnes, tu les convertis. Et c'est là, aujourd'hui, où la copie, elle a trouvé, parce que les gens, ils n'achètent pas une pièce à 450 s'ils ne peuvent pas te tester. T'as deux métriques. T'as le nombre de personnes qui arrivent dans ta boutique et t'as le nombre de personnes qui repartent de ta boutique avec un costume. La première, c'est tes clients potentiels. Ça, c'est ce que tu as ramené avec tous tes lecteurs de communication, la location, les publicités, les podcasts, etc. Donc ça, c'est tous les gens qui rentrent. Et le nombre de personnes qui sortent, c'est ton taux de conversion. Ton taux de conversion, il faut qu'il soit le plus élevé possible, évidemment. Mais il y a un trade à faire. Aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui peuvent potentiellement rentrer dans ta boutique, mais tu as un taux de conversion très faible à cause de ce problème-là. Tu gagneras beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en augmentant rien que du double ce taux de conversion.
Quand
on va rentrer le double de gens ici. Parce que ça va coûter très très cher au moment de faire rentrer des gens.
Ouais.
Je dis pas que ça est gratuit, etc. Mais régler ce problème-là, ça va augmenter tes ventes beaucoup plus parce qu'aujourd'hui, il y a un très fort déséquilibre. T'as un taux de conversion qui est très faible.
Convertir, c'est-à-dire transformer les visiteurs de notre site en clients, c'est maintenant notre objectif.
Parce qu'aujourd'hui, où est-ce que tu pourrais faire essayer des vêtements sans avoir trop de frais.
Bah sur Paris, moi j'ai un showroom, les gens peuvent venir.
C'est un showroom.
Donc là, ils peuvent venir dans mon showroom.
Il est où?
Il est dans le 10e.
Dans le 10e.
À Stalingrad, Jaurès, tout ça.
Comment est-ce que... Et il est comment le showroom?
Il est beau, il est grand. C'est un grand atelier d'artiste. Mais ça marche pour les Parisiennes. Maintenant, c'est effectivement le reste de la France. Après, c'est d'aller ponctuellement dans différentes villes, réussir à faire un événement assez gros avec des influenceuses locales, une bonne com locale, géolocalisée, machin, et faire venir des gens à ce moment-là.
Heureusement, le retour des vacances sonne la reprise de notre activité et les premiers rendez-vous au showroom. Des clientes qui nous découvrent via Internet et des fidèles auditrices viennent essayer nos tailleurs.
Et oui, du coup, vous êtes en plein. Vous avez vu, on a signé le bail, je crois, hier ou avant-hier.
Ah non, je n'ai pas suivi non
plus. De ce local. Non, mais c'est tout récent, du coup, c'est très... Donc on vient d'investir, donc c'est pour ça que...
Ah d'accord.
Le temps va y aller.
Vous avez signé le bail hier ou avant-hier et vous êtes déjà... à présenter, à recevoir des clientes. Voilà. C'est super, ma félicitation.
C'est gentil.
Vraiment. Bonjour.
Les différents modèles, du coup,
bah, d'accord, alors j'avais un peu des choses en tête. Alors j'ai vu ce que vous aviez produit là sur les photos.
Oui.
Mais est-ce que vous avez des choses cintrées et taille haute en pantalon?
C'est ça, ça correspond.
Oui. Droit.
Alors il y a après le cigarette, ouais, qui est pas aussi taille haute.
Oui.
Mais qui reste, qui dessine bien les hanches.
Oui.
Qui est plus droit, sincèrement, sur la cheville.
D'accord.
Qui bon. Faire le bon juste milieu, si c'est ce que vous cherchez.
Bon, puis bon. Bon.
On aime beaucoup ce nouveau rôle d'accueil et de conseil.
Là, ça, c'est une longueur intermédiaire entre les deux. Elle est un petit peu plus courte que la blazer que vous avez très cintrée.
Ça, c'est amusant, vous avez fait un petit...
Ouais, bah, c'est les aiguilles de 17h10, en fait.
Si vous projetez un petit cadran.
Malin.
Et vous retrouvez là aussi, du coup.
Elle va très bien, celle-ci. C'est celle qui vous va.
Oui, oui, c'est vrai.
C'est très jolie.
Bon. Donc, cette coupe-là, c'est la coupe croisée.
Oui, elle va très bien, ouais.
Bon, très bien. En carreau, celle-là.
38.
38, ok.
C'est important pour nous de conseiller au mieux nos clientes. J'ai eu envie d'échanger avec Isabelle, coach de mode, dont je suis le podcast et le blog Mode Personnelle. On s'est retrouvés dans un café, dans le 17e arrondissement.
Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui ne voient pas l'importance de bien s'habiller,
ouais.
Qui se trouvent performantes, elles le sont. Elles ont fait des hautes études, elles se disent « j'ai pas besoin de prouver par les vêtements que je suis à la hauteur ». Mais si, c'est en deux secondes, on se fait l'idée de la personne qu'on a en face de soi, on peut se faire une idée fausse.
On a parlé du rôle parfois social de nos vêtements. Et puis bien sûr, beaucoup de tailleurs. De comment bien les porter, les associer, de l'importance de casser certaines idées reçues.
Déjà, on passe par l'essayage.
Ouais.
Ou alors, je l'explique, si elle a telle morphologie, souvent, bah, j'ai des hanches, j'ai du ventre, je mets un pantalon droit, bien long et large. Non, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut avoir un pantalon avec une taille un peu plus montante,
ouais.
Forme carotte, plus court, serré dans le bas. Enfin, c'est un exemple.
Ouais, bien sûr.
Et puis une veste aussi, qui est pas très bien, on porte des vestes un peu courtes, étriquées, des femmes qui ont des épaules, beaucoup de poitrine, c'est délicat parce qu'elles ne peuvent pas fermer leur veste.
Ouais.
Il vaut mieux que la veste soit bien ajustée aux épaules et ne pas la boutonner.
Oui.
On boutonne rarement,
non,
d'ailleurs, de toute façon.
Ouais.
La longueur des manches aussi, il ne faut pas hésiter à faire retoucher les manches. Quand la manche est trop longue, on a l'air apprêté, justement. On a l'air d'être dans le tailleur de son premier entretien.
Engoncer.
Je pense que c'est plus facile quand on leur dit qu'il n'y a pas que le tailleur noir, même si j'ai rien contre le tailleur noir, mais
bien sûr, non,
c'est souvent la valeur refuge.
Ouais,
mais
c'est pas que ça.
Un beau tailleur gris, c'est très facile à porter. Un tailleur marine aussi, c'est très élégant.
Ouais. Plein de petites couleurs dessous. Oui.
Et après, sans parler des couleurs, un tailleur rose, c'est sublime. Bon, voilà. Ça, c'est autre chose. Mais
oui, mais bien sûr, mais quand on l'ose et qu'on le porte bien.
Pour vous, qu'est-ce que ce serait, du coup,
dans une démarche un petit peu de vendre et revaloriser le tailleur, justement, auprès de ces cibles femmes, quels mots vous utiliseriez, qu'est-ce que vous leur dites, justement, quand elles disent « Ah, tailleur, je sais pas
». Alors, facile, oui, facile, c'est une pièce facile à vivre, hein,
ouais.
Transversale, qui donne de l'autorité, du pouvoir, de l'assurance. Voilà, je parlerai du nouveau tailleur, puis il faut enlever cette idée du tailleur vieillot.
Ouais.
Du tailleur nouveau tailleur. Oui.
C'est une jolie façon de raconter.
Oui,
c'est un joli mot,
effectivement.
Parce que c'est assez impressionnant quand même de l'extérieur ce que vous avez réussi à construire avec Amélie en termes de communication, de retombées. Enfin, vous avez quand même créé une marque à partir de zéro qui est visible, qui voilà, vous avez le podcast. Tu me dis que tu vous faisais interviewer ce matin, donc c'est quand même beaucoup de travail sur la visibilité de la marque, créer un élan et tout. Et je trouve franchement, vous avez fait un gros boulot. Donc bravo les filles.
Je déjeune avec Claire Huneau, une amie coach professionnelle avec laquelle nous développons un nouveau projet.
D'arriver à vivre de cette nouvelle activité quand tu cherches encore tes marques, que les clients viennent pour trouver des clés dans des podcasts de support de com, mais ça se convertit pas toujours. Donc, comment vous faites, enfin, tu vois, comment vous naviguez parce que c'est ça.
Bah en vrai, on fait comme. Ouais, j'avoue. Bah, en vrai, on fait comme on peut. Hein. C'est-à-dire que là. On commence tout juste la vraie communication. Tu vois, on a lancé notre première campagne paid il y a 2 jours. Donc on va voir ce qui va retomber. En vrai, moi je me rassure en disant que ça convertissait pas avant parce que les gens, à part nos auditeurs, personne ne savait qu'on existait. Et là, on va voir ce que ça va donner dans les mois à venir, dans les semaines à venir. On va voir ce que ça va donner.
Et t'as déjà le retour des clientes alors tu me disais.
Ouais. Hier, on a fait une première vente. Et c'était chouette de voir les clientes les essayer, dire qu'elles trouvaient ça très cool, etc. etc. Donc, on est très contentes. Et du coup, on a 1000 projets. Je dis, on a ce projet-là avec l'Hélène, l'Hélène tricolore. Et on a du coup tout ce projet de coaching, formation, thématique, etc.
Avec 17h10, on souhaite accompagner les femmes dans leur vie professionnelle. Cela passe par les produits que nous proposons, évidemment, mais nous voulons aller plus loin. Offrir une véritable expérience et des conseils personnalisés.
En ce moment, il y a beaucoup de talks de femmes qui vont raconter leur parcours. C'est toujours très inspirant. De temps en temps, tu notes une idée brillante sur ton carnet, mais tu n'as jamais presque d'exercice concret pour t'aider à toi arriver à ce genre de choses. Et pareil, moi je sais que dans ma vie professionnelle, il y a des moments qui m'ont marqué et qui m'ont aidé à être plus efficace, plus opérationnelle, plus performante par des tips débiles. Genre, une de mes premières bosses m'a appris à faire une to-do qui me correspondait à moi. Et voilà, et elle m'a appris à quel type de to-do. Et genre, moi par exemple, les to-do list, ça me correspond pas. Moi, mes to-do, elles sont des petits carrés et j'ai besoin de ça et je fais des couleurs. Et le principe même de la to-do de rayer, ça m'aide. Enfin, des choses, mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça, des gens fonctionnent avec des post-it, d'autres, enfin, voilà. Et comment trouver toi ce genre de tips pour t'aider personnellement, voilà. C'est un sujet qui, je pense, est un peu innovant, qu'on n'entend pas beaucoup et qui pourrait vraiment servir. On est quand même dans une société qui revient sur la performance. C'est plus une valeur qu'on prône. Mais en même temps, une femme qui veut faire une carrière, qui veut être ambitieuse, elle sait qu'elle doit être performante. Et justement, là, on est en ce moment, tout le monde nous invite à ralentir, les publicités nous invitent à ralentir et tout. Moi, je trouvais ça intéressant de l'anglais en disant comment justement, en ralentissant certaines choses, en fait, tu vas beaucoup plus vite. Et c'est ce qu'on voit dans certains pays. Les pays nordiques sont très forts pour ça. Ils travaillent moins, mais ils sont plus efficaces. Les anglo-saxons sont pareils. Il n'y a que nous, en France, on a l'impression que le fait d'être une fourmi c'est bien, alors que non, en fait on peut faire moins mais mieux, et ouais, ça passe par une meilleure gestion du temps et de peut-être de ton approche au temps aussi.
Ouais, c'est de se dire prendre du temps pour en gagner, en fait. Ça paraît un peu bizarre. Exactement. Mais c'est totalement super.
Ouais.
Enfin, je trouve qu'il y a un truc autour de se ressourcer et d'arriver à prendre ce temps pour s'oxygéner, pour avancer, pour nourrir sa créativité. Enfin, il y a vraiment une optique de se dire là tout est tellement comprimé par le temps dans nos vies qu'on n'y arrive pas, quoi. Et même là, tu vois, on se voit pour déjeuner, on est speed, on mange à moitié pas, on est en train de faire des trucs de boulot et tout. À un moment, c'est de dire en fait, éloge de la lenteur, là, on va calmer un peu le jeu et en fait peut-être que ça nous rendra plus créatifs, plus performants, plus efficaces demain.
Thank you.
ça.
Caroline.
Exactement.
Ouais, c'est enchantée, Lucie.
Ça va, c'est nice dehors, mais...
Oh, c'est bon, ça va.
On est bien mal,
c'est bon. C'est bon. C'est bon. Je suis réchauffée.
Pour répondre à nos questions sur les influenceuses, on a décidé d'aller rencontrer Anne Montesser ou Hello Anouchka sur Instagram. Elle tient le blog Le Dressing Idéal. On la suit depuis longtemps. Nous l'avons contactée pour avoir son point de vue et ses conseils.
Après, quand une marque décide de travailler avec une influenceuse, elle le fait généralement pour des bonnes raisons. Et c'est ça que je trouve agréable, d'autant plus quand c'est des petites marques. Parce que tu sais que ça leur demande des efforts de budget, ça leur demande du temps de le faire. Donc là, en général, je réponds toujours, j'y réfléchis. Ça peut m'arriver d'accepter si je sens que ça a du sens, surtout. Aussi bien pour la marque que pour moi. Voilà, faut que ça ait du sens des deux côtés, en fait.
Quand tu dis du sens, c'est par exemple là, donc toi, c'est plutôt dans le cadre d'une blogueuse mode.
Ouais.
Tu sais que le style correspond à ce que tu portes.
Je vais toujours me poser la question de la communauté. Est-ce que ça peut leur apporter quelque chose? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Est-ce que c'est juste un produit de plus que je vais leur proposer et qu'elles auront déjà vu sous une autre forme ou... Qu'est-ce que le produit est différent? Comment moi je vais réussir à leur présenter sans que ça soit vraiment du partenariat qui pousse à la conso en fait? Ça, moi je suis pas à l'aise avec cette idée de susciter le désir en permanence sans apporter de sens.
Ouais.
Je trouve que là, ça fait quand même très très longtemps qu'on est dans ce système influenceuse qui a été, je pense, peut-être tiré, poussé à l'extrême. Et on a un peu perdu le sens de ce qui se faisait au départ, quoi.
Mais je pense qu'il faut le faire, en fait, parce que vous avez un coup de cœur. Faut pas le faire parce qu'il faut le faire. Enfin, je sais pas si je suis très claire. Moi, je suis un peu bisounours, voilà. C'est vrai, j'ai mon côté un peu naïve. Et en même temps, ça fait 10 ans que je fais ce métier, donc je sais comment il fonctionne. Et moi, je fonctionne pas mal à l'affect. Donc, c'est peut-être pas une bonne stratégie. Peut-être que d'autres personnes qui sont vachement plus dans le business et tout s'en sortiront mieux. Mais voilà, moi je trouve que c'est bien de nouer vraiment des vrais liens avec les personnes.
Ouais, t'es des personnes qui...
Parce que ça te permet d'avoir un backup aussi, tu vois, de pouvoir communiquer.
Non, puis comme tu dis, ça fait sens.
C'est-à-dire ça fait sens.
C'est des personnes qui te ressemblent, qui ressemblent à ta marque, qui portent les mêmes valeurs. Donc il y a quand même un...
Vous avez créé une marque qui a du sens, de toute façon. Enfin, vous ne pouvez pas faire une collab qui n'aurait pas de sens ou qui serait trop...
Trop plate ou opportuniste. C'est l'opportunisme.
Ouais.
Et quand tu parles de nouer des relations justement entre marques et influenceurs, qu'est-ce qui, pour toi, sont des belles façons de nouer ces relations? Parce que c'est...
Quels sont les...
Ouais, au-delà de... Alors, il y a bien sûr se commenter, les messages. Est-ce qu'il y a un moyen de passer un peu... autrement la barrière de justement le compte Instagram
Déjà se rencontrer interposé. En vrai comme nous on fait, je trouve ça sympa
ça
en
peut
fait.
Se faire
ça moment. Prend du temps mais ça permet aussi de voir si tu sens un peu la personne. Après t'es pas obligé hein. Mais si t'as la possibilité, pourquoi pas. Et puis après, après il faut donner sa personne, hein, donc faut répondre.
Tout début. On attendait d'avoir un go de la production pour justement lancer un peu les dons et les goûts de la communication. Pour le moment, on est resté assez discrète.
Ouais, mais on ne pouvait pas tout faire. Tu ne peux pas lancer un produit, t'occuper de la com. Enfin, ça vient dans un second temps, en fait. C'est normal. Hein.
Ouais, ça demande...
C'est bon.
En même temps,
C'est dans ce moment où tu marches sur des œufs, tu ne sais pas trop encore... Ça va
finir. Après, je pense qu'il faut aussi laisser les choses se faire de manière un peu organique.
Ouais.
Mais c'est long, en fait. Moi, l'expérience que j'ai du digital, c'est que tout vient à point à qui sait attendre, en fait. Mais c'est vrai que ça peut sembler un peu long, mais ça finit toujours par porter ses fruits. Si vous réseautez, si vous envoyez des messages aux bonnes personnes, si vous ciblez bien les filles, enfin les femmes avec lesquelles vous avez envie de travailler, je pense que ça marchera.
Ce week-end, un petit appétit.
L'équipe s'agrandit. Charline nous rejoint pour un stage de 6 mois.
Notre objectif de l'année, du mois, de semaine, c'est de vendre les tailleurs. Okay. Donc je pense qu'il faut qu'effectivement les chantiers, tout ce qu'on met en place, soit destiné à, principalement à faire de la vente.
Donc voilà, ok, vendons. Écoute, si on veut dire qu'on commence par vendre, on peut peut-être du coup commencer, comme ce qu'on a fait la semaine dernière, par cette collection-là.
Pour cette nouvelle année, on a pris une autre décision importante.
Je pense qu'en vrai, ça va faire bizarre. Hein. Ça va être un peu... Mais...
Qu'est-ce qui va faire bizarre?
De plus vivre ensemble.
Ah oui, bah, c'est sûr. Ça faisait quoi? On a eu quoi? C'était en 2013?
Voilà, ça fait 5 ans. Hein. Alors moi, en ce moment, je suis très souvent chez Yann, donc ça... Enfin,
oui, ça permet. Là, ça fait un petit moment que t'es plus beaucoup là. Hein,
Mais tu vois, moi, je sais que c'est quand même... Enfin, tu vois, ça reste... Enfin, ça reste mon appart, ça reste mon havre, si j'ai envie d'aller... Enfin, tu sais, tranquille. Enfin, à un moment, c'était pas tranquille, parce que c'était les bureaux, tu vois. Genre, mais là, je pense que, du coup, dans cette période-là, ça revient... Mais bref, non, c'est sûr que ça va faire... C'est sûr que ça va faire bizarre, donc... Mais
Je pense qu'on appréhende à la fois, enfin on appréhende toutes les deux aussi ce passage là, quoi. Ça va quand même être
Oui, c'est pas facile, donc
on a quand même eu toutes les,
là faut le dire de façon positive, en même temps c'est cool, hein, c'est ce que tu dis aussi, c'est grandir nous aussi, tu vois.
Moi je serais bien restée bloquée toute ma vie dans cette phase qu'on a eue entre 25 et 30 ans, à sortir comme des folles, se permettre des projets fous comme cette boîte, brainstormer toute la nuit. Vois, moi, je m'étais souvent dit, oh là là, si je pouvais mettre le temps en pause maintenant, je crois que je suis à une époque de ma vie que j'adore.
Ouais.
Et c'est trop cool de ne pas avoir à se soucier de, le temps passe, il faut faire ceci, il faut faire cela, dépêche-toi.
Ouais.
Et de garder ce côté, genre, tout est possible, je peux encore... Mais bon, en même temps, on va se voir toute la journée. Au moins, c'est ce qu'on se disait. Hein. L'avantage de monter cette boîte avec ta meilleure amie, même si tu ne vis plus avec elle, au moins maintenant, on sait qu'on se verra ici.
C'est une autre forme de colocation.
Ouais, la colocation évolue. Et puis bon, en vrai, c'est cool. On est quand même heureuse d'aller s'installer avec Yann et Antoine. Ils ont été sympas. Ils nous ont supportés toute l'année dernière. Ils ont accepté qu'on consacre énormément de temps et d'énergie à 17h10. Donc.
C'était l'avant-dernier épisode de Commencer. Pour clôturer cette saison, on organise une rencontre le 8 février chez The Family, au 25 rue du Petit Musc, dans le 4e à Paris. Les détails de l'événement sont sur la page Facebook de Nouvelles Écoutes.
Et pour continuer à suivre nos aventures, abonnez-vous au compte Instagram et Facebook de 17h10. Commencer est une production de Nouvelles Écoutes. Raconté par Amélie Delacour et Caroline Ray. Réalisé par Alexandre Moniol. Prise de son faite par Charles de Cilia. Mixé par Thibaut Delage au studio L'Arrière-Boutique. Coordonné par Laura Cuissard.
Merci, à très vite.